au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Bonjour, 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 bonjour. Quatre fois bonjour. Tu sais pourquoi, Maurice, quatre fois bonjour?
On n'est pas le 4 août.
Non, c'était hier, parce que c'est quatre fois mieux. C'est ma réponse à tous les jours, parce que je commence toujours l'émission avec quatre fois bonjour. Comment vas-tu?
Bien, toi?
Oui, ça va bien, ça va bien. Je vais commencer par la météo, parce que nous, on souffre de ça parfois aujourd'hui.
Ah oui, la qualité de l'air, wesh.
Ah, ben c'est un peu mieux, là. C'est un peu mieux. Hier, écoute, en fin d'émission, je commençais à avoir des problèmes. Mais merci, Maurice, ils ont installé un petit purificateur d'air dans le studio. Et ça a vraiment rendu notre vie, parce que de ce côté-ci de la ville, c'était plus agréable.
Moi, j'ai une bonne fan, donc je suis à la fraîche.
À la fraîche. Moi, c'est pas le froid tant la qualité de l'air. Ben là, bon, c'est réglé. Il n'y a plus d'avis de qualité de l'air dans nos régions. Alors, ça va être quand même, ça demeure chaud et humide dans le sud du Québec. 27 ressentis qui peut aller jusqu'à 30. Ailleurs, on parle donc du sud du Québec. Ailleurs, là, au Québec, c'est plus frais, mais ça reste quand même humide. On va osciller autour de 23 avec un facteur humidex qui nous amène à 26. Il y a quand même un avis de qualité de l'air qui continue là, dans le sud de l'Ontario. On parle de 23 degrés avec un ressenti de 27. Vous savez, le problème de qualité de l'air, c'est toujours encore les feux de forêt là, dans l'ouest du Canada. C'est des microparticules qui se retrouvent dans l'air. Et j'avoue qu'hier, c'était désagréable. Mais là, c'est beaucoup mieux ici au Québec là, que ça l'est en Ontario présentement. Ressenti donc en Ontario de 27. Dans le nord, Thunder Bay, ben, eux, c'est 22 degrés, ressenti 25. Mais eux, ils ont aussi des problèmes de qualité de l'air. Évidemment, ils sont collés, eux, sur le Manitoba. Passage nuageux en Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick et du Prince-Édouard, 23 à 25 degrés, ressenti 29. C'est plus frais à Terre-Neuve, autour de 20 degrés. Et puis dans l'ouest, alors là, dans l'ouest, Manitoba, Saskatchewan, Alberta, l'intérieur de la Colombie-Britannique, passage nuageux, pluie avec risque d'un orage en après-midi ou en soirée, autour de 24, humidex à 27, et c'est de la pluie sur la côte ouest du pays. Au sommaire aujourd'hui, ben, on va parler beaucoup de fierté. D'abord, on va faire un petit tour de ce qui se passe aujourd'hui à Fierté Montréal, dans ce gros, gros, gros festival. Et on va aussi parler à Barbada. Tout le monde aime Barbada, qui va nous parler de ce spectacle 100% drag. Et je vous invite d'ailleurs à lire un article super intéressant dans Le Devoir, page A8. Là, on nous parle de Ross Hamilton. J'avais déjà parlé de ce personnage à l'émission L'heure où l'arc-en-ciel se lève. C'était un soldat qui faisait de la drague pendant la guerre. Alors, les gens qui pensent qu'on a inventé ça aujourd'hui, là, drag, qui veut dire, en anglais, c'est l'acronyme Dress as a Girl, drag. Hein, c'était ça l'idée à l'époque. Donc, on va parler de ça. Et aussi, on va parler d'un deuxième festival de fierté. En fait, il y en a plusieurs. Hein. Pour ceux qui pensent qu'à Montréal, il n'y a que Fierté Montréal, non, il y a Fierté Montréal, il y a Fierté littéraire, il y a le festival Afro-Queer et maintenant Wild Pride, oui, qui s'est créé en opposition à Fierté Montréal. Ils ont le droit. Et on va parler à une des co-organisatrices donc, de ce festival aujourd'hui. Ah, c'est le temps. J'aime beaucoup l'éphéméride. Ça nous rappelle des choses importantes dans nos vies. Et il y en a beaucoup aujourd'hui. Alors, dans les événements historiques, je pense que je vais aller tout de suite en 1962 en Afrique du Sud. Nelson Mandela, leader du Congrès national africain, est arrêté par la police sud-africaine. Cet événement marque le début de sa longue incarcération qui durera, Maurice?
Au-dessus de 20 ans.
27 ans. 27 ans avant sa libération et son rôle déterminant dans la fin de l'apartheid. Et ben, en 1914, aux États-Unis, c'est l'installation du premier feu de circulation. C'est à Cleveland, en Ohio. Il faut le faire. Hein? Et depuis ce temps-là, il y en a partout. Et les gens pestent contre les feux de circulation, surtout lorsqu'ils ne sont pas synchronisés l'un avec l'autre. Hein? Quand je pense que ça arrive sur la rue Sherbrooke, là, puis on se retrouve à un feu rouge pratiquement. Oui.
Et je crois que c'est un Canadien qui a inventé la lumière jaune.
Ah oui?
Parce qu'il y avait la verte ou
la rouge. Ouais.
Là, des fois, ça pouvait créer des collisions.
Oui, surtout quand des gens...
Quelqu'un dit, on va en mettre une troisième, la jaune.
Oui. Dans le temps, on brûlait la verte, maintenant on brûle la jaune, c'est
ouais,
ça?
Ouais, ouais. On passe sur la rouge.
On passe sur la rouge. John Lennon, 1966, déclenche une controverse en affirmant dans une entrevue que les Beatles sont plus populaires que Jésus. Oh, oui, tout à fait, tout à fait. Oui, alors on va parler de plusieurs choses. En 1967, Pink Floyd, hey, mon Dieu, ça date d'il y a longtemps, de Piper at the Gate of Dawn. C'est un titre qui est inspiré par le livre Le vent dans les saules de Kenneth Graham. Donc, Pink Floyd, son premier album, sorti de l'album Help des Beatles, qui deviendra l'un des albums les plus populaires du groupe, marquant l'évolution dans leur style musical. Ça me tentait de vous parler d'un artiste. Attends un petit peu avant. Faut que je le dise, 1968, la naissance d'une femme politique française, Marine Le Pen, c'est son anniversaire aujourd'hui, présidente du Rassemblement national. Oui, 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 pas quelqu'un que tout le monde aime, hein? C'est très, une personne très controversée. Et je vous amène aujourd'hui à un souvenir de jeunesse pour plusieurs d'entre nous. En fait, Maurice et moi, on a le même âge, ou à peu près, et on a très connu cet artiste. Alors, je vous invite à écouter Prince, hein, qui a créé aujourd'hui, sorti de son album Purple Rain. Alors, une petite exception à la règle, on va vous faire jouer de la musique en anglais aujourd'hui.
We'll be right back.
Wow, hein? Purple Rain de Prince. Prince, ben écoute, c'était un de mes idoles. Purple, en fait, il est mort en 2016. On l'a retrouvé le 16 avril dans un ascenseur dans sa résidence d'Atlanta. Je pense que c'était Atlanta? Non. Attends. C'était au Minnesota où il habitait. Il a été retrouvé mort d'une surdose accidentelle de fentanyl. Alors, on ne croit pas là, qu'il était accro, mais c'était quelqu'un qui avait probablement beaucoup de douleurs. Une carrière mouvementée, mais mon Dieu, quel talent. Alors voilà, on s'est fait un petit peu de nostalgie ce matin, nous les vieux de la dernière rangée ou la dernière cohorte des boomers, parce que semble-t-il que 61, on est encore boomers, Maurice et moi. Alors voilà. J'ai le temps de parler aussi d'une autre histoire qui aurait pu mal tourner. C'est sorti de la presse. Donc, entassé dans un camion cube sans ventilation, des hommes, des femmes et des enfants ont été découverts par la Gendarmerie royale du Canada sur le chemin Askall, près de Stansted, dans la nuit de samedi à dimanche. Ces 44 migrants tentaient de franchir clandestinement la frontière canadienne. Trois présumés passeurs ont été arrêtés sur place. Ils ont comparu hier par visioconférence au Palais de justice de Québec. Ils demeurent détenus jusqu'à leur prochaine comparution prévue mercredi, donc demain, au Palais de justice de Sherbrooke. Alertés d'un passage illégal imminent, les policiers de la GRC patrouillaient le secteur lorsqu'ils ont intercepté, vers 2h20, un camion cube de la bannière de location de véhicules U-Haul. À l'ouverture de la porte arrière, les agents ont découvert des migrants serrés les uns contre les autres en état de déshydratation. C'était une scène d'horreur, rapporte le sergent Claude Poirier de la GRC. La majorité ne pouvait pas s'asseoir. Les gens étaient entassés, déshydratés. Il faisait une chaleur étouffante et le manque d'air à l'intérieur du camion était frappant. Ça aurait pu mal finir. Les migrants ont expliqué qu'ils avaient marché environ 2 heures à travers la forêt pour rejoindre les passeurs monter à bord du camion. La grande majorité des personnes interceptées étaient d'origine haïtienne. Parmi elles se trouvaient quelques enfants, dont un âgé d'environ 4 ans, ainsi qu'une femme enceinte. Les présumés passeurs sont accusés d'avoir incité, aidé ou encouragé ou tenté de le faire des personnes à commettre une infraction en vertu de la loi 131, l'article 131 de la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés. Ils font également face à un chef d'accusation en vertu de l'article 11 de la loi sur les douanes pour avoir facilité l'entrée de personnes ailleurs qu'à un bureau désigné. Environ le tiers des personnes qui ont été interceptées, donc on parle des personnes migrantes, n'ont pas satisfait aux critères d'exception à l'entente sur les tiers pays sûrs et ont été retournés aux États-Unis dans les heures qui ont suivi. Les autres dossiers sont toujours en traitement. Pour François Crépeau, professeur de droit international à l'Université McGill, la fermeture du chemin Roxham, on se souvient, il y a quelques années, a eu pour effet d'encourager les réseaux de passage clandestins. Tant qu'on avait l'entrée par le chemin Roxham, tout le monde entrait sans passeur. Avec un système parfaitement contrôlé, la GRC prenait les empreintes, les identités, etc. Donc, on savait ce qui se passait, explique-t-il. À partir du moment où on ferme le chemin Roxham et qu'on essaie de bloquer tout le monde, on ouvre le marché pour les passeurs clandestins, ajoute-t-il. Selon lui, cette interception pourrait n'être que la pointe de l'iceberg. Pour un camion qui est arrêté, il doit y en avoir plusieurs autres qui passent d'une manière ou d'une autre, que ce soit en camion ou à pied. Et est-ce que ça se passe massivement en ce moment? On ne le sait pas. Personne ne le sait réellement, mais on peut s'attendre à ce que ça continue, dit-il. Pour en savoir plus, là, donc, 14 874... C'est le nombre de demandes d'asile traitées au Québec en date du 27 juillet 2025, comparativement à 22 337 à la même période en 2024. Cela représente une baisse de 33 % des demandes d'asile dans la province en un an. Et là, sait-on jamais, avec l'arrivée de Donald Trump à Washington, ça pourrait changer la donne. On retourne en musique.
Titre de la pièce Toutou. Il était accompagné d'un artiste qui s'appelle Blasé, pourquoi pas. Et l'artiste qui nous chantait ça, c'est Miel de Montagne.
Bon, on n'est pas blasé, nous, présentement, à Canalem. Puis je pense que mon prochain invité, Chris Ngabunziza, directeur de la programmation et du développement artistique à Fierté littéraire, il est peut-être pas blasé, mais il était peut-être un peu fatigué. Comment vas-tu, Chris?
Je vais bien ce matin, bizarrement. Je sais pas si c'est l'adrénaline qui embarque, mais pour vrai, ça va très bien ce matin.
Oui, ben écoute, je pense que toi et moi, on est un peu pareil parce que, bon, comme tu le sais, je porte plusieurs chapeaux. Alors, l'animation d'émission, il faut que je me lève tôt le matin. Puis, j'ai des activités en soirée avec Fierté littéraire. Puis, c'est ça, le truc, c'est qu'on me dit, quand la lumière rouge du micro s'allume, ben, oups, tout à coup, l'énergie revient.
Ça repart. Oui, tout à fait.
Je vais rapidement, parce que c'était quand même dans les actualités, un petit peu de chamboulement là, au niveau du conseil d'administration de Fierté Montréal. Votre président a dû quitter pour des raisons personnelles. D'ailleurs, on espère que ça va bien pour lui. C'est une nouvelle quand même qui... Bon, tout le monde interprète ça à sa façon, mais pour vous autres, c'est sûr que ce n'est pas une bonne idée que ça arrive à ce moment-ci, mais bon, on vit avec, hein?
Absolument, mais écoute, on est comme devenus des experts à se revirer. Bon, non, mais ça va bien. Il y a Marlo qui a pris la direction jusqu'à la fin du mandat. Puis honnêtement, ça va très, très bien. Oui. On aurait aimé que Bernard reste jusqu'à la fin, mais écoute, on lui souhaite qu'il se rétablisse puis qu'il aille bien de son côté. Mais honnêtement, ça va bien. Hein.
Oui.
C'est stable. On est super prêts pour les jours qui s'en viennent. Et donc, oui, il pourrait... je sais que c'est bizarre de le dire, mais ça va très bien.
Bon, alors hier, moi, j'ai passé un petit peu par le village en sortant d'un autre événement, puis j'ai vu qu'il y avait, ça dansait dans le village. Il y a de l'activité, là. Puis surtout que vraiment, la météo est de votre côté. Je ne sais pas ce qui se passe. Avez-vous accroché un chapelet sur la corde à linge, comme on dit chez nous?
Absolument. S'il y a quelque chose qui est de notre côté, depuis qu'on a commencé, là, depuis qu'on a sifflé le festival jeudi passé, la météo est vraiment au rendez-vous. On a eu un petit truc samedi pendant mon dos disco, mais ça finit très vite. On a repris Donc, on est super content là-dessus parce qu'on n'a pas été très chanceux avec la météo dans les éditions passées.
Alors, on se rappelle l'année dernière, hein, avec l'ouragan, les restants de l'ouragan qui sont passés, oui.
Ah oui, non, c'était vraiment quelque chose. Mais non, hier, dans le village, c'était électrique avec la course de la 10e édition de la course capotée. Là, ça avait l'air d'une fin de semaine, honnêtement, sur Sainte-Catherine, c'était super cool. Il y avait plein de monde, il y avait des familles, c'était vraiment, vraiment cool. Notre pôle village, c'est un gros hit cette année, à date en tout cas. Fait qu'on est super content, Denis, pour elle.
Alors, aujourd'hui, on est mardi. C'est sûr que les lundis, mardi, mercredi, c'est toujours un petit peu plus calme. C'est normal parce que pas tout le monde est en congé d'ici l'ouverture, ouais, donc du pôle du stade olympique, parce que là, il va y avoir des gros spectacles. C'est vraiment le gros week-end qui s'en vient. Aujourd'hui, quels sont les points chauds là à surveiller, à fierté?
Alors aujourd'hui, on est toujours dans le village avec un super beau spectacle de la communauté latinex qui s'appelle Diabolos Boylesque Latinesque. C'est un autre spectacle qui est quand même devenu un classique là, du festival de la communauté latino. Donc ça va être sur le Mixbus dans le village. C'est gratuit à partir de 18h. Ça va être le fun. Très coloré, très multidisciplinaire. Il y a de la danse, il y a du chant, drague, humour et tout. Et parlant d'humour, c'est l'ouverture de nos soirées d'humour, Gag et paillettes, au Théâtre National ce soir à 19h. Donc voilà les deux.
C'est animé par Mona de Grenoble, je pense, hein, c'est ça?
Ça, c'était l'année passée.
Ah, l'année passée.
On donne l'animation, on essaie de changer l'animation à tous les ans.
Alors,
c'est animé par un duo qui s'appelle le Montbro. C'est Yann Assibro et Philippe Lacroix.
Oui.
Et j'étais allé hier à l'entrée de salle. Ça se passe super bien, j'espère que...
Ah, ils avaient une vidéo de promotion sur les réseaux sociaux hilarante.
Joanna Wintour, Coco Béliveau, Charlie Morin, il y a vraiment une belle brochette d'artistes du monde local, donc ça va être vraiment, vraiment nice. Puis on poursuit aussi à l'ONF avec notre volet cinéma, ciné-queer en présentiel. On présente un court-métrage de l'ONF. Ce soir, donc, quand même un petit peu calme au niveau des spectacles. Il n'y en a pas beaucoup, comme on est habitué à l'avoir, c'est fierté.
Oui.
Mais quand même des très, très beaux éléments.
Allez-y, puis ça va être moins... C'est peut-être moins fatigant physiquement, parce qu'il faut garder de l'énergie pour la fin de semaine. Puis moi, je vais me permettre de terminer là-dessus. Il y a aussi, dans le cadre de mon festival, Fierté littéraire, c'est le grand TFH littéraire. Ce n'est pas gratuit, mais c'est... écoute, la billetterie entre 15 et 40 $ et c'est au Théâtre La Comédie de Montréal, au métro Berri-UQAM.
À
20h. Et c'est moi qui anime ça. Alors voilà, j'en dis pas plus. Chris Ngabonziza, c'est toujours un plaisir de te recevoir. On se parle demain matin, puis on va faire le tour de tout ça. Puis nous, on va parler après la pause musicale, après la pause de l'heure. On va parler avec Barbada du spectacle 100% drag. Merci beaucoup encore, Chris.
Parfait, bonne journée.
Bonne journée.
Ciao.
C'est la fin de semaine, j'avais tellement hâte que ça vienne. C'est le temps de s'amuser. problem. Party we are celebrate, money I go spend. Working, working, working every day. Now what time for we, time for we, time for we play. Take it easy, we are take it cool and breezy. No need to rush thing, baby, believe me. Chill out, chill out, chill out. Listen to reggae music on the boat. Kick back, relax, and you know we no doubt. We put we cellular phone on time out. Hey, kiss me, baby, cause you are my lady. Give me some sugar, give me some sugar. Amaze me, honey, give me the loving daily. Two are we together at the weekend.
C'est la fin de semaine, j'avais tellement hâte que ça vienne. C'est le temps de s'amuser, bébé. C'est la fin de semaine, j'avais tellement hâte que ça vienne.
À deux, trois jours près, c'est la fin de semaine par Shawit.
Ouais, quelques jours de la fin de semaine. Hein, c'est encore une grosse semaine qui devant nous. Rappel météo, c'est toujours chaud et humide dans le sud du Québec, ressenti de 30. C'est plus frais quand même, mais ça reste humide dans le reste de la province. Avis de qualité de l'air aussi et chaud et humide en Ontario, sauf dans le nord, à Thunder Bay. Et on parle de 27 degrés de ressenti dans le sud, 25 dans le nord. Passage nuageux pour la Nouvelle-Écosse, toutes les provinces de l'Atlantique et de la pluie à Terre-Neuve. On a des ressentis jusqu'à 29. Manitoba, Saskatchewan, Alberta, intérieur de Grande-Britannique, c'est passage nuageux, pluie avec risque de orage en après-midi ou en soirée. Autour de 24 degrés, humidex à 27, c'est de la pluie sur la côte ouest. Après la pause, on va parler avec Barbada. On va parler du spectacle 100% drag à voir là, pour ceux qui sont de la région de Montréal. Ça, ça aura lieu le jeudi, donc après-demain. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
Chasse de pêche un oiseau, mais jamais rien ne l'empêche un oiseau d'aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe. Dis, comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. C'est comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau dans peu de chasse et de pêche. Je n'en vois pas de trace. Dis, comment veut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile, dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Et comme l'oiseau,
Émilie Claire Barlow et sa version jazz de Fait comme l'oiseau.
Ben, on va rester dans les plumes, tiens. Hein? On va passer d'oiseau à drag queen. Salut, Barbadan.
Bonjour, Denis Martin.
Ben, je me trouve drôle ce matin. Écoute, c'est Barbadan, bon, je t'invite parce que je veux parler du spectacle 100% drag que tu vas co-animer avec Rita Baga. Puis ce matin, en lisant le devoir, je pense que je vais te lancer là-dessus, mais c'est vraiment intéressant de parler de cela. Nous, on en avait parlé à l'heure où l'arc-en-ciel se lève, mais quand même, Ross Hamilton. Alors, pourquoi on parle de lui? Je pense que je vais te laisser peut-être te décrire un peu parce que tu as lu l'article toi aussi ce matin. Hein?
Oui, exact. Ben, en fait, c'est intéressant de voir. On dit souvent qu'il faut savoir d'où on vient pour savoir où on va.
Oui.
Pas? Et c'est intéressant de connaître un peu l'histoire et l'histoire de la drague, notamment, parce que c'est de ça qu'on parle aujourd'hui. Ross Hamilton, qui était un militaire dans les deux guerres, en fait, la première et la deuxième, mais qui avait aussi un personnage de drague, Marjorie, qui divertissait les troupes, notamment pendant la Première Guerre mondiale, qui a même été sur Broadway également pendant 9 semaines, pendant quelques semaines, moins, je ne sais pas, sur Broadway. C'est super intéressant de savoir que c'était vraiment un personnage de drague, hein, des imitateurs féminins, comme on pouvait comme on les nommait à l'époque. C'était pas véritablement des dragues, mais c'était le même principe là, de spectacle en imitation féminine. Voilà.
Et le pire, c'est qu'il a diverti hein, les troupes militaires pendant les deux guerres et on l'a mis dehors parce qu'il était homosexuel au bout de... je pense que c'est en 1942 qu'on l'a mis dehors.
Exactement.
C'est incroyable.
Exactement,
ben, incroyable, oui. Fou, oui mais... fait partie de la purge. Hein. Je trouve ça intéressant parce que, tu sais, des fois, les gens ont l'impression que c'est tout nouveau, tout beau. Puis là, on va se le dire, hein, t'as pas inventé la drague, Barbada.
Non, je te confirme que non.
Mais par contre, écoute, tu mets ton talent et celui de beaucoup d'autres artistes drague, toi et Barbada, vous mettez plein de monde au service du divertissement des Montréalais et des visiteurs ce jeudi. Parle-nous du spectacle 100% drague, c'est quoi?
En fait, c'est le plus gros spectacle de drague de l'année. Spectacle qui, en plus, est gratuit, on s'entend. Pas à tous les jours qu'on a l'occasion de voir un spectacle avec plus de... Mon Dieu, je pense qu'on est presque 80, 70 dragues sur le spectacle environ. Là. 70
c'est du monde, ça?
Des artistes dragues.
C'est de la perruque, en tout cas?
C'est de la perruque. Et là, j'inclus pas non plus tous les danseurs, danseuses, des figurants, figurantes qui font partie des différents numéros. Un gros spectacle de 3h30 qui se déroule sur l'esplanade du Stade olympique dès 19h ce jeudi, qui sera précédé d'un DJ set de Bimini, drag aussi, drag queen également. Donc, c'est vraiment célébrer l'art de la drague dans toute sa diversité, je dirais l'art de la drague locale montréalaise, mais également internationale, puisque cette année, on jumelle deux spectacles qui avant étaient... On jumelle en un gros spectacle, deux spectacles différents. Avant, il y avait Drag Superstar, qui était le spectacle principalement des artistes internationaux, souvent des artistes qui avaient fait RuPaul's Drag Race, des choses comme ça, animé par Rita Baga. Il y avait Majestix, que moi j'ai animé l'année dernière, et il y a, en tout cas, bref, en 2022 également.
Oui.
En 2021, pardon. Et donc, c'est ça, ça c'est les artistes locaux. Là, on jumelle tout ça, un gros spectacle, 3h30 de temps, c'est complètement fou. Je vous dis, c'est complètement fou, gratuit, comme je l'ai dit, à l'extérieur, dans lequel il va y avoir notamment évidemment Rita Baga, qui sera à la coanimation également avec moi, qui aussi chapeaute la conception et toute l'organisation du spectacle avec BGB Productions, gestion BGB. Sinon, il y a également des artistes que vous connaissez peut-être, comme Manny, Jimmy Moore, Rainbow, on a Gisèle Lullaby, Lady Boom Boom, on a Clitoris, un drag king, on a Derek Wood aussi, un autre drag king. Mon Dieu, là, la liste m'échappe.
Oui, je sais qu'il y a Nicky Doll qui anime Drag Race France.
Voilà, mais là, on tombe du côté international, justement, oui. C'est ça. Donc, du côté international, Nicky Doll, Detox, Michaela Couture, ben, internationale, elle est canadienne, là, mais quand même. Soi de Muse aussi. Star, vraiment des artistes d'un peu partout qui viennent à Montréal pour ce gros spectacle de drag là.
Alors, je vais te reprendre. Hein. Hier, je parlais avec Chris Ngabunziza de Fierté Montréal, qui disait que c'était le plus gros show de drag de tout le Canada et peut-être même de toute l'Amérique du Nord.
Bon, ben alors, think big, comme disait l'autre, hein? Think big. Mais oui, c'est vraiment très gros. C'est complètement fou, là. Les artistes se donnent. Moi-même, pas plus tard qu'en ce moment même, j'ai dans mon salon trois personnes qui savent faire. Ma mère, une de mes bonnes amies, et qui savent faire à confectionner des trucs, on fait des décors, on fabrique des gros décors. C'est vraiment un gros numéro. C'est vraiment un gros show.
Écoute, là, je vais révéler quelque chose parce que je te connais quand même depuis longtemps. Barbada, que je connais aussi sur son alter ego, Sébastien. Et maman, elle est souvent présente. Elle travaille très fort hein, pour t'aider. Alors, on la salue en passant puisqu'elle est à côté de toi.
Ben, merci, maman. Merci. Elle est formidable vraiment là, de m'aider dans tout ça, oui.
Je trouve important de le souligner parce que pour beaucoup de personnes, c'est difficile de vivre ce qu'elles sont. Les familles ne les acceptent pas. Toi, tu ne vis pas ça.
Heureusement. J'ai vraiment eu la chance d'avoir une mère qui m'a supporté dans non seulement mes choix de carrière, qui, au final, c'est vrai que sont quand même différents. Pas tous les jours qu'on croise une drag queen qui enseigne aux enfants et qui est aussi un ancien membre des Forces canadiennes. ça court pas les coins de rue.
Non, disons pas.
Donc, c'est vrai que c'est un parcours qui est assez atypique, mais qui, au final, je pense, avec le travail, la persévérance, a mené à quelque chose de, je pense, très bien. Et je me sens vraiment sur mon X. Alors, c'est en grande partie grâce, justement, au support que j'ai eu de ma mère. Donc, oui,
ah oui,
je suis d'accord.
Maman qui souvent va traîner la tête avec la perruque pendant que toi, tu trans... Oui, oui, c'est... moi, je l'ai vu. Je trouve ça vraiment, vraiment le fun. Comment tu te sens, là? Puis, on est quand même à l'avant-veille.
On est fébrile, vraiment fébrile. Surtout que, pour ma part, je vais divulguer des petites affaires.
Ah oui, on veut des scoops ici.
Je veux des scoops, tu vas en avoir. Ouais. Dans mon numéro, là, je parle vraiment juste. Bon, en fait, même temps qu'on divulgue des scoops du show au complet, oui, il y aura évidemment des grosses tunes pop. Il y aura quelques chansons en français également. Il y aura un hommage très spécial également à une drag queen iconique du Québec. Je vous dis pas c'est qui, mais je pense que vous avez une bonne idée, mais un hommage spécial à cette drag queen-là.
Je pense que ça commence par un G, hein, son nom. Je te ferai pas révéler,
non,
c'est beau.
Pas tout à fait.
Bref. OK.
on a des numéros vraiment qui vont dans tous les sens. Numéros sur les vampires, on a, je l'ai dit, des grosses tunes pop, des comédies musicales aussi. On s'en va entre autres dans l'univers de Wicked et Chicago. Hein. Et pour ma part, mon numéro, que j'invite les gens vraiment à venir tôt, puisque c'est moi qui ouvrirai le spectacle. Je vais faire quelque chose que je fais très, très, très rarement. Rita le fait beaucoup plus récemment. Moi, je le fais très peu souvent, mais je vais chanter. Donc, chanter live, chose que je fais pas. Et j'aurai également des performances de cirque dans mon numéro.
Oui,
donc,
j'ai entendu dire que tu t'étais mis à ça récemment.
Alors, ça devrait être... En fait, pas ça devrait. Ça va être vraiment parmi mes top 3 de mes numéros en carrière qui vont être marquants, on va dire, et qui, je l'espère, vont être mémorables. Donc, j'invite les gens.
Je termine là-dessus. Les temps sont difficiles pour nos communautés et particulièrement pour les personnes qui font de l'art de la drague. Un show aussi lumineux, c'est pour ça qu'on le fait?
Ben oui, bien sûr. Moi, j'ai souvent dit, là, oui, c'est vrai que c'est pas facile ces temps-ci, mais la lutte pour les droits des communautés de LGBTQIA+, ou même pour les droits humains en général, c'est un peu comme les séries au hockey. Une équipe au hasard de hockey, là, les Canadiens, les Islanders, peu importe, peuvent se rendre en série, même à la limite gagner la Coupe Stanley, puis waouh, super, gagnant de la Coupe Stanley une année. Mais on ferme pas le, on met pas la clé dans la porte après pour dire, bon, mais merci, on a gagné la Coupe Stanley, on met la clé dans la porte, merci, bonsoir, on ferme. Mais non, l'année d'après, c'est à recommencer. T'sais. Alors, même les années où ça va bien, il faut recommencer. Il y a des années où ça va moins bien, on les fait pas les Coupes Stanley, on les fait pas les séries, on gagne pas la Coupe Stanley. On recommence l'année suivante. T'sais. Et je pense que c'est un peu le même principe pour les droits des communautés LGBTQ+. On a à continuer la lutte. Il y a des années où ça va très bien aller, des années où ça va moins bien aller, mais il faut continuer, il ne faut pas baisser les bras. Je pense que nous, de nos jours, contrairement aux gens qui ont lutté, ou même à Ross Hamilton, dont on parlait évidemment au début, mais notamment aux gens qui ont lutté pour les droits dans les années 60-70, nous, on les a déjà fait, les séries, qu'on a même déjà gagné la Coupe Stanley. On le sait que c'est possible, par exemple, d'avoir on l'a vécu en longtemps, des droits pour les personnes de même sexe, des mariages pour les personnes de même sexe, des droits pour les personnes trans, les droits, mon Dieu, c'est possible de vivre avec, bien vivre avec le VIH, par exemple. C'est toutes des choses que les gens qui luttaient dans les années 60-70 pensaient même pas possible. T'sais. Eux ne vivaient que d'espoir. Nous, on vit de réalité. On le sait que c'est possible. Il y aura des années où ça va moins bien et on ne la gagne pas, la Coupe Stanley. Il y a des années où ça peut peut-être faut baisser les bras. Au contraire, il faut continuer.
Il faut continuer. Et... on va espérer de regagner la Coupe Stanley plus tôt que les Canadiens de Montréal. Merci beaucoup, Barbada.
Je l'espère aussi. Merci infiniment. Bonne fierté, tout le monde.
Merci. On va parler d'une autre fierté, hein, parce qu'il y a plusieurs fiertés qui se déroulent à Montréal. Je l'ai dit un peu plus tôt à l'émission. Il y a Fierté Montréal, oui, d'une part. Il y a aussi le Festival Afroqueer qui est là depuis plusieurs années. Il y a le Festival Fierté littéraire. J'en sais quelque chose, je vous le dis. Je porte deux chapeaux. Je porte le chapeau de cette autre fierté. Et de cette année, une nouvelle fierté vient de s'ajouter. Ça s'appelle la Fierté indomptable, Wild Pride. Pour en discuter, on reçoit une des co-organisatrices qui s'appelle Samia Lamrini. Allô, Samia!
Bonjour Denis, ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Ça va, merci beaucoup. Merci de m'accueillir encore une fois.
Ben, écoute, c'est important parce qu'on veut donner la voix à tout le monde. Alors, qu'est-ce que c'est que la fierté indomptable?
La fierté indomptable, c'est, je dirais, une initiative qui est menée par beaucoup de personnes, beaucoup de collectifs qui ne se sentaient pas nécessairement ou plus nécessairement représentés par la fierté corporative, donc Fierté Montréal. Et donc, c'est en ce moment, ça a commencé, je me pince encore parce que ça se passe quand même très bien jusqu'à maintenant. Mais c'est la première édition et je sais qu'on a encore beaucoup de travail à faire. Mais essentiellement, c'est à peu près un peu plus de 80 événements
quand même.
Différents collectifs qui participent aussi à Fierté Montréal ou qui ont participé à Fierté Montréal dans les années précédentes. Certains collectifs se sont retirés. D'autres collectifs sont de petits collectifs qui n'auraient pas nécessairement travaillé avec la fierté corporative. On a des événements de toutes sortes. Donc, on a eu une séance de lecture avec une drag queen. On a des ateliers d'éducation sexuelle. On a des parties. On a aussi des événements qui sont par et pour les personnes en situation de handicap, les personnes neurodivergentes. On a beaucoup, beaucoup d'événements. La programmation est vraiment incroyable. J'ai vraiment le sentiment qu'il y a de tout pour à peu près tout le monde.
Donc, si on veut, tout de suite, on va le dire, si on veut s'informer sur votre programmation, on peut se rendre où? J'imagine qu'il y a un site web ou quelque part.
Oui. Oui. Donc oui, absolument. On a créé une page Instagram qui est l'élément central là, oui. de nos publications, donc Wild Pride Montréal. Puis dans le lien, dans la bio, il y a un lien vers le site web également.
Oui.
Sur notre page Instagram, il y a la programmation qui est indiquée avec tous les événements qu'on a du 30 juillet au 18 août.
Alors, pourquoi créer donc cette fierté? Qu'est-ce qui est à la base? On a parlé de la fierté corporative, et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est parce que Fierté Montréal reçoit du financement et du gouvernement, mais reçoit aussi du financement du secteur privé. Mais il y a quelque chose d'autre là, qui est derrière la création de Fierté Indomptable.
Oui, absolument. Donc, Denis, tu m'as reçu dans le passé pour en parler, notamment l'année dernière. On a, au lendemain des attaques du 7 octobre, on a commencé à travailler, moi notamment, avec ma collègue Farah, mais je porte également d'autres chapeaux, notamment celui de présidente du CA de Hélène Montréal. Et donc, nous avions contacté Fierté Montréal pour essayer de voir avec elle ce qui pourrait être fait pour prendre position par rapport à ce qui se passe en Palestine, parce que oui, ce sont des civils qui sont bombardés là-bas, mais il y a aussi des personnes queer. Donc, on voulait parler de cette intersection. On voulait parler de pinkwashing, d'homonationalisme, parce que Israël, qui est l'oppresseur dans ce génocide, utilise souvent l'excuse comme quoi Israël est le seul pays au Moyen-Orient où est-ce que les personnes queer ont le droit d'exister pour justifier ce génocide qui ne fait qu'empirer, tristement. Donc, on a voulu travailler avec Fierté Montréal par rapport à ça, et malheureusement, il n'y a pas eu d'avancement. L'année dernière, on a marché quand même dans le défilé, on s'était habillé tout en blanc, puis on avait profité de la minute de silence pour faire un die-in. Donc, on s'était mis de la peinture rouge sur nous pour démontrer notre solidarité à nos adelphes en Palestine. Cette année, je pensais honnêtement qu'on n'allait rien faire, Denis, mais au lendemain de dénonciations qui ont été faites par des groupes artistiques saphiques, donc Disconio, Blush, et lui qui est devenu Messi, puis Sweet Like Honey, qui, eux, dénonçaient non pas la Palestine nécessairement, mais notamment, mais dénonçaient des problèmes au sein de, comme dans la gouvernance, puis à l'interne de Fierté Montréal, notamment par rapport à des contrats qui n'étaient pas respectés, de la misogynie, du racisme, donc plus d'un point de vue artistique. Et donc, ça a créé un momentum pendant lequel beaucoup de gens m'ont écrit, à moi notamment, mais à d'autres personnes de la communauté, pour s'organiser et pour créer notre propre fierté, indomptable, sans compromis, sans fonds privés, une fierté par et pour nous, par et pour la communauté. Et honnêtement, c'est magnifique jusqu'à maintenant. Je suis bouche bée par tous les efforts qui sont mis par tout le monde pour voir ce festival, pour que ce festival naisse.
À la veille du début de Fierté, du festival Fierté Montréal, l'organisme a publié un communiqué de presse dans lequel il reconnaît qu'il y a génocide en Palestine et qu'il rejetterait la présence de groupes jugés racistes, intolérants. Est-ce que c'est un pas dans la bonne direction?
Honnêtement, je ne sais pas quoi répondre à cette question, ouais, dans le sens où la manière dont le post, dans cette publication, ce communiqué a été transmise, était un petit peu louche, je ne sais pas comment le dire, parce que ça a été publié comme si c'était quelque chose à laquelle ils pensaient depuis très longtemps. Mais Denis, je ne sais pas si tu avais vu, moi de mon côté, j'avais fait une publication pour annoncer que GAVA et SIJA marchaient, parce que ce n'était pas indiqué nulle part, encore une fois.
Ce sont deux groupes pro-israéliens, c'est
exactement
ça?
Exactement. Hein?
Oui.
Donc oui. GAVA est un groupe qui se dit groupe juif, mais qui est un groupe sioniste. Puis SIJA, c'est même pas un groupe queer, c'est vraiment juste une fondation qui est liée aux affaires israéliennes ici au Canada, puis SIJA Montréal, vraiment pour Montréal, c'est la Fédération israélienne Jewish Affairs. Mm-hmm. Mais bref, tout ça pour dire, ça a été fait dans un timing qui me laisse perplexe, ouais, parce que le communiqué a été fait comme si c'était quelque chose qui était en branle depuis longtemps, qui était étudié, mais j'avais fait une publication pour exposer leur présence, et c'est là que le lendemain, il y a eu cette réponse. Donc, c'est quand même un petit peu bizarre. Entre-temps, il y a également eu une des artistes qui participait au show.
Safia Nolin, oui.
Safia Nolin, qui a fait une publication parce que elle aussi a vu ça, elle a vu mon post notamment, puis on était en contact. Donc, malheureusement, je n'arrive pas à croire que c'est vraiment parce que c'est un sentiment de solidarité, mais vraiment parce que tout l'œil du public était vers eux. Il y avait de plus en plus un gros mouvement de boycott, un gros mouvement de questionnement, puis C'est ça. J'arrive pas à prendre leur communiqué au sérieux, d'autant plus que plutôt que de parler de génocide, il est question de conflit. Les commentaires ont été enlevés, donc on peut même pas commenter pour dire qu'est-ce qu'on, tu sais, c'est quoi nos sentiments par rapport à ça. Il n'y a pas eu d'excuses, il n'y a pas eu, tu sais, on n'a toujours pas été contacté. Moi, tout ça, ça me donne vraiment pas envie d'aller vers eux plus qu'il faut, là, tu sais. Il aurait fallu qu'ils nous contactent, qu'ils nous demandent à nous rencontrer. Il aurait fallu des excuses, il aurait fallu des explications. Ça reste un communiqué très flou, limite, ça donne l'impression d'avoir été rédigé par ChatGPT. Non, moi, je ne sais pas s'ils pensaient qu'on allait les remercier, mais honnêtement, c'est quasiment une insulte.
Bon, je vais revenir à vos activités. 80 activités, vous ne recevez pas de financement corporatif. Où trouvez-vous votre financement?
Donc, on a fait une levée de fonds, donc une cagnotte qui fonctionne très bien. On a la chance d'avoir eu beaucoup de dons, puis je ne sais pas si elle va me laisser puis accepter que je le mentionne, mais une des artistes qui participait justement à Fierté Montréal hier, Calamine, vient de nous faire un don assez important qui représente une partie de son cachet pour le spectacle. Et on a beaucoup de gens qui croient en nous, beaucoup de gens qui croient en nos initiatives, donc on a réussi à aller chercher beaucoup, beaucoup d'argent comme ça. On a aussi eu des activités de levée de fonds, donc notamment un lavoto. On a plusieurs soirées comme ça au travers desquelles on ramasse des fonds et ça fonctionne très bien. Donc, à suivre, on va continuer d'en avoir aussi là pour continuer de nous assurer du financement du festival.
Alors, moi, j'ai une critique qui ne vient pas que de moi. Là, c'est des gens avec qui je discute parce qu'évidemment, je ne suis pas tout seul à faire cette émission. Mais on a noté que c'est surtout la langue anglaise qu'on retrouve sur les affichages et certains disent même pendant les activités de la Fierté Indomptable. Est-ce que c'est quelque chose que vous... dont vous avez pris connaissance, est-ce que c'est quelque
Absolument.
Chose qui...
Oui. On reçoit des messages quasi quotidiennement de différents ordres et on les prend très au sérieux.
Oui.
Encore une fois, c'est un festival qu'on a réussi à monter en quoi? Deux mois
En deux mois, oui, c'est vrai.
Donc,
oui.
Ce n'est vraiment pas parfait. On le prend très au sérieux, on reçoit beaucoup de messages, on essaye d'être le plus bilingue possible dans nos publications. C'est sûr que ce n'est pas parfait, on le prend en note, mais c'est sûr que s'il y avait une deuxième édition l'année prochaine, ce serait quelque chose à laquelle on serait encore plus attentif. Mais on le note, on prend la critique, on est d'accord, il faut faire plus attention. On va s'assurer que la langue française rayonne d'autant plus l'année prochaine.
Samia, je sais que c'est quelque chose que tu trouves important à mentionner, puis on a quelques minutes encore pour se parler. Ce qui se passe à Gaza,
oui.
Comment tu le décris?
Écoute, je n'en dors plus. Cette nuit, les images défilaient dans ma tête. Ce week-end, j'ai eu l'énorme privilège et je pense que c'est un des moments qui m'a le plus touchée dans les derniers mois. Et merci de me poser la question, Denis. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi parce que tu nous laisses l'espace. Mais vraiment, ce week-end, on organisait une vigile au centre-ville où est-ce qu'on lisait les noms de 17 930 enfants, donc mineurs, qui ont été tués à Gaza. Et c'était absolument atroce. Chaque mot qui sortait des bouches des personnes qui lisaient ces noms-là, tu voyais qu'ils avaient de la misère parce que chaque nom est une histoire, chaque nom est un univers détruit. Donc que les parents aient perdu leur enfant ou que toute la famille soit détruite, c'est vraiment de plus en plus alarmant ce qui se produit. Je vois qu'il y a une certaine montée là, de solidarité. J'essaie de croire que j'ai vraiment envie de croire que c'est vraiment parce que les gens s'éveillent à tout ça, puis qu'il y a de l'empathie qui continue de grandir. Mais après 22 mois, c'est difficile d'y croire. On dirait qu'après 22 mois, les gens n'ont plus vraiment peur parce que ce n'est plus vraiment problématique de parler de Palestine. Tu parles plus vraiment de contrat si tu parles de Palestine. Donc, on se retrouve dans un moment où est-ce qu'on veut prendre toute la solidarité puis on veut se dire qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à en parler, mais en même temps, on se pose la question, est-ce que c'est de la performance ou est-ce que les gens y croient vraiment? J'espère que les gens commencent à nous humaniser plus, Denis. J'espère que les gens commencent à nous voir comme leurs adelphes, comme leurs camarades, parce que tout ce qui nous sépare avec les Gazaouis, c'est où est-ce qu'on est né, où est-ce qu'on se retrouve en ce moment.
On va terminer là-dessus. Je vais quand même terminer aussi avec un petit mot qui vient de Peter Thatcher, là, qui est la fondation au Royaume-Uni pour les droits gays, qui dit « Oui, on peut manifester en faveur du peuple palestinien ». tout en dénonçant l'homophobie du Hamas, tu vois? Alors, tout va bien.
Absolument. Merci beaucoup.
Merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir à nouveau. Merci.
Bonne journée.
Alors, oui, un petit rappel météo aujourd'hui pour tout le monde. Alors, je vous le dis, c'est chaud et humide dans le sud du Québec, ressenti qui va jusqu'à 30. C'est un petit peu plus frais ailleurs, mais quand même, on reste dans les 23-26 degrés. Avis de qualité de l'air en Ontario, sauf dans le nord, et on a aussi des ressentis assez élevés, ben, autour des 27-28 dans ce coin-là. Passage nuageux dans les provinces atlantiques, et bon, on est aussi dans des ressentis là, de 29. C'est de la pluie et du plus frais dans l'ouest du pays. Après la pause, donc, des infos. À tout de suite.
Vous écoutez Au quotidien avec Denis Martin Chabot.
On aurait dû mourir
duo d'adieu par deux des plus belles voix du Québec, Diane Dufresne et Serge Fiori.
Oui, Serge Fiori. Hein? On le pleure encore, Serge Fiori. C'est fou comment est-ce qu'on dit ça souvent quand on a atteint un certain âge. C'est un grand pas de ma jeunesse qui est parti avec le départ de Serge Fiori. Et Dieu sait que nous aimons beaucoup Diane Dufresne, évidemment. Par actualité aujourd'hui, des options de répit rares et inadéquates. C'est un article de La Presse. Donc, Diane Gendron veille sur son mari atteint de la maladie de Parkinson depuis 2015. Exténuée, l'aidante naturelle souhaite prendre une ou deux semaines de vacances par année pour refaire le plein d'énergie. Mais les options de répit décentes sont quasiment inexistantes, déplore-t-elle. Madame Gendron est aidante naturelle à temps plein. Un rapport du CLSC visant à évaluer les besoins de son mari mentionne que ce dernier est autonome grâce à la présence constante de sa conjointe. Mais tout cela, ça a un prix. Elle le dit, je suis extrêmement fatiguée. Elle peine même à retenir les larmes quand elle le dit. L'état de son mari, Mohamed, c'est un nom fictif, avec qui elle est mariée depuis 33 ans, se dégrade tranquillement. Son corps est de plus en plus rigide, ses tremblements de plus en plus prononcés. Les pertes cognitives s'accentuent. Madame Gendron peut parfois s'absenter de la maison, mais jamais plus d'une heure. Et pas tout le temps. La maladie est fluctuante, ça dépend des jours, précise-t-elle. Une fois par semaine, Mohamed, ingénieur de formation, se rend dans un centre de jour pour faire des activités pendant quelques heures. Et une intervenante du CLSC vient les mercredis après-midi pour s'occuper de lui. Madame Gendron en profite pour faire des courses ou aller à des rendez-vous médicaux pour elle-même, hein, chose rare, mais la charge reste imminente. En mai dernier, complètement à bout de force, Mme Gendron s'est tournée vers le CIUS, le Centre intégré donc de santé là, de l'Est de l'île de Montréal, pour tenter d'obtenir un répit d'une semaine. Elle voulait prendre des vacances avec ses filles âgées de 18 et 22 ans. On a offert à Mohamed une place en CHSLD, hein, au CHSLD Champlain-Marie-Victorin, un établissement de près de 270 lits dans l'est de la métropole. Mais une visite des lieux l'a refroidi. Mme Gendron décrit les chambres comme étant minuscules et sans toilettes, des unités sales et vétustes. Elle ne peut se résigner à y envoyer son mari. Elle craint qu'il n'y perde tous ses acquis. Choquée, Mme Gendron a écrit une lettre ouverte en mai pour réclamer plus de lieux de répit au Québec. Alors, le plus récent rapport de visite du ministère de la Santé au CHSLD Champlain-Marie-Victorin, daté de mai 2024, a relevé plusieurs lacunes dans cet établissement. On peut y lire que certains membres du personnel ne présentent pas une approche chaleureuse, que les lieux ne sont pas propres et ne sont pas bien entretenus, et que les activités individuelles et de groupe ne sont pas offertes sur une base quotidienne. « Je ne confierai même pas mon chien », lance Mme Gendron. Le porte-parole du CIUS de l'Est de l'île de Montréal, Luc Fortin, assure que les soins et services offerts dans cet établissement sont sécuritaires, adéquats et bien adaptés aux besoins des usagers hébergés. Un plan d'amélioration du ministère montre que des travaux d'entretien ont été réalisés dans les derniers mois et que d'autres démarches sont en cours. Le groupe Champlain, qui exploite le CHSLD privé conventionné Champlain-Marie-Victorin, reconnaît que l'établissement a besoin d'importantes rénovations. La situation est connue du ministère, indique la porte-parole Annie Gauthier, qui assure que le manque de chaleur de certains employés relevé dans le rapport de visite du ministériel est un événement isolé. Le CIUS de l'Est de l'île de Montréal, qui s'occupe du dossier de Mohamed, ajoute que les 14 lits de répit sont offerts sur son territoire permettent de répondre pleinement à la demande. Aucune demande de répit provenant d'usagers admissibles n'a été refusée cette année, indiqué par le courriel, donc, Éric Fortin. 1,5 million, c'est le nombre d'aidants naturels et d'aidantes naturelles au Québec. Mme Gendron s'est fait offrir une autre option de répit pour son mari le 11 juillet, plus de 8 semaines après sa première demande. Nathalie Diesel, directrice du regroupement des aidants et aidantes naturelles de Montréal, estime que les places de répit à long terme sont rares dans la métropole et que trop souvent les lieux sont inadéquats. Tu veux avoir la tête tranquille quand tu envoies un proche aidant? Mais le CHSLD de, les CHSLD de répit sont souvent malpropres, vétustes, ils manquent d'activité, les gens refusent d'y envoyer leurs proches, dit-elle. Madame Gendron a regardé d'autres options de répit pour son mari. Du côté du privé, les coûts sont prohibitifs. Il faut dire que les dernières années ont été très difficiles pour l'enseignante de philosophie au cégep. Elle a dû mettre sa carrière en pause en 2014 quand on lui a dépisté un cancer du sein agressif avec métastase. Elle s'en est remise en déjouant les pronostics. Mais en 2015, c'était au tour de son mari d'avoir un diagnostic de Parkinson. Et depuis le début de mon cancer, Mohamed était mon proche aidant naturel. Il était super, mais petit à petit, les rôles se sont inversés, raconte-t-elle. Madame Gendron s'est donc tournée vers les maisons Gilles Carle, mais la seule maison de ce type à Montréal est actuellement fermée. La plus proche option est à Cowansville. Ça va vraiment pas bien pour les proches aidants. Un dossier donc à suivre. On va essayer de faire une entrevue très bientôt là-dessus à l'émission.
Buvait au Rio, nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort malgré le fret et les barbares. Nous savions qu'un jour il viendrait à grands coups d'axe, à coups de taxe, nous traverser le corps de bord en bord. Nous les derniers humains. C'est un peu trop tranquille, ami, laissez-moi faire le guet. Allez, dormez en paix.
Nous venons en mener. Believe me. assez de discussions et signez-moi la reddition. Car bien avant la nuit, nous regagnons la Virginie. V'là les Yankees, v'là les Yankees, easy come, easy go, v'là les gringos.
Alors je compte jusqu'à trois et toutes vos filles pour nos soldats. Le grain, le chien et l'uranium, l'opium et le champ de l'ancien, tout désormais nous appartient. Et pour que tous aient bien compris, je compterai deux fois. Et pour les news, la NBC, tell me, my friend, qui est le chef ici? Et qu'il se lève.
Le soleil se leva. Nous avons traversé les continents, les océans sans fin, sur des radeaux tressés de rêves. Je l'achève. Caligula, c'est légionnaire. Ton président, c'est millionnaire. Sont pendus au bout de nos lèvres. Oh, gringo, t'auras rien de nous. De ma mémoire de titan, mémoire de titan franc. Ça fait longtemps que je t'attends. Gringo, va-t'en, va-t'en. La nuit dormait dans son verso, les chèvres buvaient au rio. Nous allions au hasard et nous vivions encore plus fort, malgré le fret et les barbares.
Les Yankees, très belle chanson de Richard Desjardins, revisitée par Claude Pelgag et Philippe Braque.
Oui, tout à fait, tout à fait. Très belle chanson. Des avions canadiens ont effectué hier un largage aérien d'un peu plus de 10 000 kg d'aide aux Palestiniens de la bande de Gaza, alors que le premier ministre Mark Carney mettait en garde contre une aggravation de la crise humanitaire dans la région. C'est donc un article de la presse canadienne. Les forces armées canadiennes ont survolé la bande de Gaza à bord d'un avion CC-130J Hercule, donc un avion Hercule, pour effectuer un largage d'aide humanitaire essentielle, ont indiqué la ministre des Affaires étrangères Anita Anand et le ministre de la Défense, David McGuinty, dans un communiqué de presse. Mark Carney a déclaré d'ailleurs hier sur les réseaux sociaux que la catastrophe humanitaire de Gaza s'aggrave rapidement. Alors que l'inquiétude internationale s'accroît, le Canada est l'un des nombreux pays à avoir largué de l'aide humanitaire au-dessus de Gaza. De nombreux colis alimentaires largués par avion ont fini leur course dans la mer Méditerranée ou ont atterri dans des zones dites rouges, donc des zones qui sont difficilement accessibles par les ressortissants palestiniens de l'endroit. Au moins un colis aussi est tombé sur une tente où des personnes déplacées étaient réfugiées, blessant un homme qui a dû être transporté à l'hôpital. Les Nations Unies et d'autres organisations ont déclaré que ces largages étaient coûteux et dangereux et qu'ils acheminaient beaucoup moins d'aide que les camions. On sait qu'Israël a imposé un blocus à la bande de Gaza en mars, arguant que le Hamas vendait des fournitures essentielles et de la nourriture pour payer ses combattants. Les agences des Nations Unies affirment que ce n'était pas le cas à grande échelle. Après deux mois et demi, Israël a autorisé les États-Unis à lancer la Fondation humanitaire de Gaza, qui a mis en place des sites de distribution d'aide. Des centaines de Palestiniens ont été tués par des tirs de l'armée israélienne alors qu'ils tentaient d'accéder à ces sites. L'État hébreu a assoupli les restrictions sur l'acheminement de nourriture et de médicaments vers l'enclave palestinienne en réponse au tollé international suscité par la famine sur le territoire. Affaires mondiales Canada a argué hier dans un communiqué que les restrictions actuelles imposées par Israël à l'aide constituent une violation du droit international et doivent cesser immédiatement. Mercredi dernier, M. Carney a évoqué les restrictions d'aide israélienne et la nécessité de préserver la voie vers une résolution à deux États pour justifier la décision du Canada de reconnaître officiellement un État de Palestine. Le Premier ministre a précisé que cette décision était conditionnelle à la mise en œuvre de réformes sérieuses par l'autorité palestinienne et à la tenue d'élections l'année prochaine pour la première fois depuis 2 décennies.
Personne, il n'y a plus personne. Mon âme qui s'affole en prenant son envol me laisse inanimé. Personne, j'ai besoin, j'ai personne. Mon être dégringole, tous mes sens m'abandonnent. Je ne sais pas si j'ai peur. Tu regardes d'en haut le corps de ton esprit, nos visages à l'envers, tout petit, tout. Si Dieu existe et qu'il t'aime comme tu aimes les oiseaux, comme un fou, comme un ange, tu peux marcher enfin sur les étoiles aspirées.
Deux autres belles voix québécoises. Claude Dubois, accompagné de Céline Dion, nous chantait « Si Dieu existe ».
Ah, écoute, parmi les plus belles voix québécoises, c'est tellement beau cette chanson. Ça donne le frisson quand on entend ces deux belles voix. Les ressources en français pour les hommes au Manitoba sont rares. C'est par Joseph Hervé Aissou, qui s'est publié le 15 juillet sur radiocanada.ca. Le Centre d'aide en santé mentale, Sarah Riel, organise des groupes de discussion à Winnipeg. Ces rencontres visent à combattre l'isolement chez les hommes en leur permettant de parler volontairement de leurs préoccupations communes. Ces discussions ne se déroulent cependant pas en français, ce qui peut limiter l'expression émotionnelle de certains participants francophones. Moussa Kassadi, conseiller en santé mentale, indique que ces groupes de soutien répondent à un besoin communautaire. Selon lui, il s'agit d'un désir réel des hommes de se parler entre eux. Le franco-manitobain Marcel Degagné participe souvent aux séances de discussion organisées par le Centre Sarah Riel. Il est heureux de l'écoute qui est accordée aux hommes à cette initiative de soutenir la santé mentale et surtout de pouvoir maintenant le faire de plus en plus en français. Rappel météo, donc sud du Québec et Ontario. C'est toujours chaud et humide. Et un avertissement donc d'air, de qualité d'air en Ontario, dans le sud de l'Ontario. Moins dans le nord quand même. Et puis il y en a aussi du temps frais, de la pluie dans l'ouest du pays. C'est plus frais dans l'est, dans les provinces atlantiques. Donc c'est une petite journée d'été coussi-coussa. Et nous, c'est le temps de vous dire au revoir. Merci beaucoup à Maurice Bolduc qui a fait la mise en onde et le merveilleux choix musical aujourd'hui. Je m'appelle Denis Martin Chabot. De retour demain matin, 9h30 sur Canal M.